Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1, un nouveau numéro de High Speed Dating où aujourd'hui on va parler de Felipe Massa. Felipe Massa, on commence directement dans le vif du sujet, est né à Sao Paulo le 25 avril 1981, donc aujourd'hui il a 34 ans, il va sur ses 35 bientôt. Donc Sao Paulo, évidemment, quand on parle d'un pilote brésilien né à Sao Paulo, évidemment, on pense automatiquement à Ayrton Senna qui est aussi né dans cette ville. Donc, voilà, on suppose, même on le sait, que lors de son enfance à Felipe Massa, donc au cours des années 80, début des années 90, la culture populaire de la F1 est très forte quand même dans cette région et dans cette ville. Donc autour de Massa, et forcément ça l'a influencé sûrement quelque peu pour effectuer sa carrière de sport auto, comme ça a influencé pas mal de pilotes brésiliens d'ailleurs. Rubens Barrichello aussi, ça a pu l'influencer, même si Rubens Barrichello, il y avait aussi d'autres pilotes qui ont pu l'influencer, peut-être Emerson Fittipaldi également. Enfin bref. Et oui, parce qu'il faut savoir que Massa, il n'a pas grandi à Sao Paulo même, mais il a grandi, on va dire, dans la banlieue de Sao Paulo, donc bon, et c'était quand même très imprégné de cette passion et de cette ferveur pour Ayrton Senna, le Paulista. Du coup, Massa, voilà, entraîné par tout ça et par sa passion pour le sport auto, a commencé très tôt la mini-moto, et ensuite il s'est porté sur le karting à l'âge, on va dire, fatidique. 8 ans, comme beaucoup dont j'ai pu parler avant. Karting à 8 ans. Malheureusement, concernant sa carrière en karting, il y a très peu d'informations qui sont trouvables, on va dire, facilement. Il faudrait peut-être fouiller un peu plus, voire beaucoup plus, mais je n'ai pas les moyens de faire ça, malheureusement, ni le temps. Mais j'ai fouillé, pourtant, j'ai fouillé, mais vraiment très peu d'infos, voire aucune hein, sur les détails de sa carrière en karting. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a duré 7 ans et qu'elle a été auréolée de succès. Donc, c'est logique, hein, sinon il n'aurait pas continué après. Mais voilà, 7 ans en karting. Et notamment, voilà, une grande victoire en karting qu'il a obtenue en 1997 aux 500 miles de Granja Viana. Vous pardonnerez mon accent inexistant. Donc voilà, ça c'est du karting, hein, les 500 miles de Granja Viana. Je crois que ça devait être par équipe de deux, hein, si j'ai bien compris ce que j'ai pu voir. Enfin bref, il a gagné cette compétition et il la remportera de nouveau en 2002 d'ailleurs, alors même qu'il allait être en F1 ou qu'il l'était déjà. En tout cas, il était en monoplace, ça c'est sûr. Et donc le karting, c'est une discipline très chère à Massa, tellement chère à Massa qu'il créera sa propre compétition de karting dans les années 2000 avec le Desafío Internacional das Estrelas. Alors là, mon accent entre l'espagnol et le portugais et le français, c'est quelque chose. Hein. Vous noterez, c'est pas trois étoiles hein, tout ça. Bref, le défi international des étoiles, si on veut traduire le titre de cette compétition, qui est en fait une compétition caritative, qui dure, c'est un événement unique, une fois par an, un événement qui compte deux courses, et ensuite, ça se passe au meilleur des deux courses, je crois, ils ajoutent le temps des deux courses, et puis le premier à gagner, je crois, ou c'est un système de points, je ne sais plus, en tout cas, c'est au meilleur des deux courses. Et donc, par exemple, des pilotes prestigieux ont participé à cette compétition. Rubens Barrichello, donc Massa lui-même, évidemment. Michael Schumacher, qui d'ailleurs a remporté cette compétition par deux fois. Jules Bianchi, qui l'a remporté par une fois. Je l'avais vu en direct, d'ailleurs, la fois où il l'avait remporté, si je me souviens bien. Et le dernier vainqueur était Liu Zi en 2014. Il me semble avoir également vu cette course. Enfin, oui, cette course, vu qu'il n'y en avait eu qu'une en 2014. Enfin bref, c'est intéressant, c'est une compétition en plus caritative, donc on soutient ça. En 2015, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y en aura en 2016 ? Mystère pour l'instant. Du côté de la monoplace, parce que oui, maintenant, Felipe Massa, après les 500 miles remportés en kart de Granja Viana, il a pu obtenir un volant en monoplace. Il avait seulement 17 ans pourtant, seulement 17 ans. Mais il commence la monoplace. En 1998, en Formule Chevrolet de Brésil, il finit 5e. Une performance honorable. Et en 1999, paf, il concrétise. Et il gagne cette Formule Chevrolet Brésil. Pas de pilotes notables à remarquer hein, dans cette Formule Chevrolet Brésil. Ce sont surtout des pilotes brésiliens dont très peu parmi les adversaires de Massa à l'époque sont arrivés à percer quelque part, hein, il faut bien le dire. Suite à ce titre, il déménage en Europe. Et ben oui, s'il veut aller en F1, si les pilotes veulent aller en F1, il y a toujours cette problématique d'aller en Europe concernant les pilotes qui ne sont pas européens. Et donc il va en Europe, il a un petit budget pour commencer, il doit s'adapter à une nouvelle culture, apprendre l'autonomie à 18 ans, hein, à 18 ans tout ça, 18-19 ans. Et tout simplement savoir parler anglais également, c'est très important pour communiquer. Ben, tout ça, ne pas être trop troublé par tout ça pour pouvoir être le plus concentré possible sur son pilotage. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile quand on est jeune comme ça, mais vraiment, ces pilotes-là, ils ont vraiment la volonté de continuer. Senna est passé par là, hein, il a déménagé du Brésil, je crois, en Angleterre, hein, pour participer à un championnat, la F3 britannique, je crois, à l'époque. Tous les pilotes passent par là, hein, tous les pilotes sud-américains, australiens, il faut bien aller quelque part pour aller en F1, il faut aller en Europe en l'occurrence, et participer à des compétitions là, dans notre continent. Donc il s'en est sorti, et oui, Massa s'en est sorti dès la première saison où vraiment là il impressionne. En 2000, il remporte justement la Formule Renault 2000 Italie et la Formule Renault 2000 Eurocup. Donc il remporte deux compétitions la même année, ce qui est très fort, avec quelques victoires à la clé évidemment. Et en plus, ce n'était pas rien il affrontait lors de cette compétition, lors de l'Eurocup, il affrontait Raikkonen et Anthony Davidson pour quelques courses. Je crois que Davidson n'en a participé qu'à trois courses en Eurocup. Mais voilà, il y avait Raikkonen en tout cas en Eurocup avec lui. Donc déjà, ils se sont rencontrés à l'époque. On verra que leurs chemins vont se rencontrer encore après. Hein, je vous raconte, je vous redévoile l'histoire en avance, hein, vu que vous ne la connaissiez pas. Évidemment, je suis ironique, hein, je sais que tout le monde sait que les deux se sont rencontrés en F1 et sont encore en F1 d'ailleurs, aujourd'hui. Donc voilà, il s'est imposé, il s'est montré un peu à l'Europe, hein. Déjà, l'Europe s'est intéressée à lui, a fait, ah ouais, il a remporté la Formule Chevrolet de Brésil là-bas, là il a remporté deux compétitions, ah il est intéressant ce jeune. Et du coup, grâce à ça, eh bien, il va pouvoir poursuivre et surtout, ben, bientôt toucher du doigt son rêve de la F1. Parce que là, c'est essentiel pour un pilote comme ça qui a peu de budget, qui compte sur le budget de l'écurie. Hein. Vraiment, c'était le budget de l'écurie qui lui a permis de participer à ses compétitions de participer à ses compétitions, tout simplement. Après, son talent a fait le reste. Mais il faut vraiment que le talent fasse le reste. Sinon, c'est aller-retour au Brésil, hein. Direct, on te donne le billet, allez, retourne à Sao Paulo, retourne gagner tes formules Chevrolet Brésil, essaye de tenter la voie pour aller en IndyCar, mais pour la F1, tu repasseras, hein. C'est un peu ça, c'est cruel, hein. Le monde de la F1 et du sport auto, ça peut être cruel, hein. Donc il faut vraiment, c'est beau, c'est un beau monde, ça c'est vrai, mais il faut avoir le talent, au moins, c'est clair que c'est au mérite, hein. Il n'y a pas de secret. C'est clair que c'est plus facile quand on a du budget, des connaissances, des parents riches, etc. Mais après, si t'as pas le talent, ça se voit, et ça se voit vraiment aux performances et au palmarès, hein. Donc on peut vraiment pas aller loin. Citez-moi un champion du monde qui était vraiment mauvais et qui a dû son titre de champion du monde de F1 au budget. Il n'y en a pas, hein. Je vous le dis, pas la peine de chercher, il n'y en a aucun. Donc bon, il faut minimiser un peu cette problématique des pilotes payants, qui au final, bon, ça touche qu'une minorité de pilotes. Heureusement, et encore, parmi les pilotes payants, il y en a qui sont légitimes. Il faut le dire. En 2001, il participe à l'Euro Formule 3000, donc c'est pas vraiment la Formule 3000, c'est l'Euro Formule 3000. Je ne connaissais pas vraiment cette compétition. Je croyais qu'il y avait juste la Formule 3000, qu'il n'y avait pas une autre déclinaison, bref. Il participe à cette compétition, il la gagne. Il gagne tout, hein, depuis 99, il gagne tout, hein. Là, c'est vraiment là qu'on voit les grands pilotes et qu'on peut repérer les grands pilotes. Et en plus, il domine très largement cette compétition puisqu'il remporte 6 courses sur 8. Donc c'est quand même assez fort. Parmi ses adversaires, il n'y avait pas de pilote notable. Je crois qu'il y avait Ryan Briscoe, si je me souviens bien. Ouais, mais c'est tout. Ryan Briscoe qui donc est un pilote IndyCar aujourd'hui, mais... Non, pas d'adversaire vraiment hyper connu maintenant. Il y a des connus hein, dedans, mais je les ai pas notés parce que c'était pas essentiel. Ils n'ont pas fait de F1 ensuite. Donc voilà, 99, 2000, 2001, il a tout remporté. Et donc il arrive, grâce à ça, à obtenir un contrat Ferrari, ben, bien mérité, j'ai envie de dire, mais un long contrat Ferrari à long terme sur 7 ou 8 ans. Donc c'est pas mal. Et grâce à ça également, il obtient un test Sauber, puisque Sauber était client Ferrari et l'est aujourd'hui d'ailleurs, de nouveau. Le test Sauber se passe très bien, et du coup, Sauber l'engage pour les saisons 2002, 2004 et 2005. Et oui, ben je citerai, je dirai pourquoi il n'a pas été retenu en 2003. Donc Sauber prend Massa après avoir pris Kimi Raikkonen, donc vraiment, Sauber, c'est vraiment l'écurie, et d'ailleurs, ça s'affirmera durant les années à venir, hein, durant les années qui suivent 2005, c'est que Sauber, c'est vraiment l'écurie qui va faire découvrir les futurs talents. C'est vraiment ce genre d'écurie. Parce qu'ils ont pris Kimi Raikkonen avant Massa, en fait. Hein. Là, ils prennent Massa. Donc, c'est pas les perdreaux de l'année. Mais malgré ça, Massa connaît une année 2002 compliquée. Déjà, la Sauber était pas excellente. Mais Massa, on va dire, se tue dans l'œuf avec des accrochages. Des accrochages malheureux, dont un d'ailleurs qui a amené Sauber à le remplacer. À le remplacer pour une course, hein, parce qu'en fait il avait eu un accrochage dans une course, Massa, et suite à cet accrochage, les commissaires ont décidé de lui octroyer 10 places de pénalité sur la grille du prochain Grand Prix. Sauber, ça leur convenait pas, du coup ils ont fait une petite entourloupe, ils ont remplacé Massa par un autre pilote, en l'occurrence Frentzen, pour éviter la pénalité de 10 places. Donc bon, je ne sais pas si ce serait encore possible aujourd'hui, mais bon, Sauber ils l'ont fait certes pour ça, mais aussi pour punir Massa pour sa saison, parce que pour montrer que Sauber n'était pas vraiment content de sa saison. Alors pourtant sa saison elle est pas si mauvaise que ça, on va dire. Il est derrière son coéquipier Nick Heidfeld au championnat. Nick Heidfeld, hein, attention, souvent on le raille un peu pour sa carrière en F1, mais il n'a pas fait une mauvaise carrière en F1, pas du tout, hein. Il a souvent été devant ses coéquipiers, souvent c'était pas des mauvais coéquipiers, hein. Raikkonen, Massa, hein, je crois qu'il a fini devant les deux, hein, au total. Donc c'est assez bien, devant d'autres également plus tard. Seulement, il lui a manqué ce petit truc pour aller plus loin, malheureusement, mais ça a resté un bon pilote de F1, il n'y a rien à dire. Enfin bref, Massa finit un peu derrière lui au championnat. En fin de saison, Massa s'est un peu redressé au niveau du rythme en qualification, mais malgré tout, Hedfeld, on va dire, remporte le duel des qualifications 11-5, donc c'est quand même assez large. Donc voilà, suite à ça, Sauber décide de ne pas le garder, de le remplacer pour la saison 2003 par Ensar Alfrenzen. Ensar Alfrenzen qui fera mieux que Massa d'ailleurs, parce que Frenzen va battre Hedfeld, notamment grâce à un podium, hein, obtenu pour Sauber par le pilote allemand. Mais voilà, il y avait encore une saison compliquée pour Sauber en 2003 avec pas mal d'abandons, donc c'est dur de voir la qualité d'un pilote. On voyait dès 2002 que Massa pouvait être rapide, hein, il n'y avait pas de souci. Mais malheureusement, le fait que la Sauber était pas vraiment bonne, il y avait pas mal d'abandons et tout, eh ben ça cachait un peu quelques performances. Mais il faut dire que Massa n'était pas non plus à son niveau maximum, il faut le dire aussi. Hein, donc voilà. Donc qu'a fait Massa en 2003, vous allez me dire, et vous aurez raison de me poser la question, ce serait une très bonne question. Eh bien en fait, il a été pilote d'essai Ferrari en 2003. Donc c'est très utile pour lui parce qu'à l'époque, pilote d'essai, ça signifiait faire quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres pour la marque italienne. Donc il a obtenu pas mal d'expérience, déjà en pilotant, en fournissant le feedback, en discutant avec des mécanos, des ingénieurs de Ferrari. Enfin bref, c'était parfait pour le pilote brésilien. C'est très utile pour la suite de sa carrière. Alors du coup, ça a été tellement utile qu'en 2004, Sauber le remet en selle, hein, vraiment littéralement. Malheureusement, Massa n'est toujours pas flamboyant. Toujours pas flamboyant durant les saisons 2004 et 2005. Même si en 2005, d'ailleurs en 2005, c'est peut-être sa meilleure saison avec Sauber puisqu'il bat son coéquipier qui était alors Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui n'était pas forcément on va dire, à son meilleur niveau. Hein. Son meilleur niveau, c'était vraiment à la fin des années 90. Hein. Mais c'était quand même Jacques Villeneuve, donc un pilote bien plus expérimenté. Donc c'est toujours bien de le battre et de le dominer. C'est très bien pour Massa, ça lui a donné une bonne image. Donc on voyait qu'il était rapide, je m'en souviens, quand j'étais plus jeune, à l'époque, et que je regardais les courses, Je voyais que Massa était rapide et pouvait aller plus loin. Franchement, on sentait quelque chose chez ce pilote, hein. Il n'y avait pas de souci. Mais au niveau des résultats, ça manquait de concrétisation, c'était juste ça. Et s'il n'avait pas ce contrat Ferrari, eh bien, peut-être qu'il n'aurait pas eu, enfin, c'est même sûrement, enfin, il n'aurait pas eu la même carrière à un pilote qui a les mêmes résultats que Massa, sans contrat Ferrari à long terme et tout. Ah, c'est compliqué pour lui d'exister ensuite en F1 et de poursuivre et d'évoluer. Et là, heureusement, ben, Ferrari lui offre le sésame, puisqu'en 2006, il peut piloter pour la Grande Scuderia. De 2006 à 2013, d'ailleurs, hein, une des plus longues carrières. Je crois que je l'avais dit dans Analyse F1, d'ailleurs. Il me semble que c'est la plus longue. C'est le pilote Ferrari qui a effectué le plus grand nombre de Grands Prix ou de saisons, voire les deux, je crois, de saisons. De saison chez Ferrari, hein. À revérifier, mais il me semble que je l'avais dit à un moment, je ne sais plus si c'était à l'occasion d'un quiz ou d'une chronique ou autre, mais ça c'est sûr, c'est un des pilotes Ferrari de toute l'histoire de Ferrari qui est resté le plus longtemps à hein, Massa. Malheureusement, il n'y aura pas de titre, mais il y aura des très bonnes années, et c'est les premières années que je vais vous raconter. Assez vite, hein, on les connaît tous. En 2006, donc c'est là où il remporte ses premiers podiums et ses premières victoires, donc direct il rentre bien dans le bain, hein, Felipe Massa, et heureusement, c'est important pour un pilote, je le répète, c'est d'être bon au bon moment. Là vous voyez, Massa, il gagne la Formule Chevrolet Brésil, il peut aller en Europe. En Europe, il sait que s'il ne gagne pas, dès le début, ça va être difficile ensuite. Il gagne dès le début, il gagne tout d'ailleurs, même après. En Formule 1, il est chez Sauber, mais Sauber, voilà, et de toute façon, il pourra pas montrer ses capacités, même s'il est au maximum de sa forme. Donc voilà, au pire, il n'est pas très bien, mais il marque quand même des points, il n'est pas ridicule non plus. Il montre qu'il est rapide, hein, quand même, par moment, et assez régulièrement. Donc il n'y a pas de souci. Et en plus, la dernière année chez Sauber, il bat son coéquipier très expérimenté et un coéquipier champion du monde. Donc ça fait parler. Et ensuite, il se retrouve chez Ferrari, donc, et dès la première saison, il est opposé, on va dire, enfin, il est coéquipier de Michael Schumacher. Donc, on s'attend pas à ce qu'il batte Schumacher hein, dès la première saison, hein, ça c'est clair. Donc, Schumacher d'ailleurs le bat à plate couture, ça, il faut le dire. Mais Felipe Massa, pour autant, fait une bonne saison. Hein. Par exemple, il fait une saison, on va dire, relativement aussi bonne que des saisons qu'a pu faire Rubens Barrichello. Et Rubens Barrichello qui était bien plus expérimenté que Massa à l'époque. Donc, c'est très bien d'être directement dans le bain. Il donne confiance à l'écurie italienne pour l'avenir, surtout que c'était la dernière saison de Schumacher. Et il marque voilà 7 podiums et 2 victoires dès sa première saison avec Ferrari, donc c'est très bien. Et il a bien aidé Ferrari à marquer des gros points au championnat constructeur. Ensuite, en 2007 et en 2008, ben son coéquipier, ce sera Raikkonen. Et vraiment, 2007 et 2008, ce sera ses meilleures saisons de toute sa carrière et des saisons qu'il ne pourra rééditer, hein, il faut bien le dire, il faut pas se le cacher. Et ce sera vraiment la consécration pour lui, parce que là, vraiment, il y aura pas mal de victoires, pas mal de pole positions, etc. C'est là où il va fonder le plus gros de son palmarès. Malheureusement, il n'y aura pas de titre. Il n'y aura pas de titre. C'est manqué de peu. C'est manqué de peu. Souvenez-vous, Brésil 2008, un des finales les plus beaux de ces dernières années. Voilà, Brésil 2008, Brésil 2012. Je les cite, hein, on pourrait même mettre peut-être Abu Dhabi 2014, vu qu'il y avait du suspense et vu le, comment dire, la lutte entre les deux pilotes Mercedes, mais c'est vrai que le Brésil, la Brésil 2008 et 2012, c'était vraiment pas mal, hein, il faut bien le dire. C'était vraiment pas mal. Il y avait aussi ce Grand Prix Abu Dhabi 2012, non, pas 2012, 2010, pardon. Je sais pas si c'était le final, mais en tout cas, c'était une course clé avec Alonso qui se fait bloquer avec la mauvaise stratégie Ferrari, Alonso qui se fait bloquer par Petrov, il me semble. C'était des beaux. Même si c'était pas la dernière course, c'était la course qui décidait le titre. Donc c'est des belles courses décisives pour le titre. Alors voilà, ce sera la consécration. Malheureusement, voilà, Brésil 2008, pour Massa, ça a été vraiment malheureusement le crève-cœur. En plus, dans son Grand Prix natal, on va dire. Donc c'est très triste. Et oui, souvenez-vous, Lewis Hamilton remporte le titre au dernier virage du dernier tour du Brésil, alors que Massa, en passant la ligne, en ayant gagné la course, donc il a fait le boulot, il a gagné la course, mais malheureusement après, il apprendra quelques minutes plus tard que il n'a pas le titre et que c'est Hamilton qui a eu le titre en dépassant Glock au dernier virage. Voilà, c'était un final assez épique. Voilà, mais Massa était dans le coup ces 2 années-là, en 2007-2008. Il tenait largement tête à Kimi Raikkonen. Mais aussi, en étant en lumière comme ça chez Ferrari, dans une écurie qui luttait pour le titre, un top team historique qui plus est, eh bien on a vu ses qualités, certes, mais ses défauts. Alors, ses qualités, sa grande qualité, c'était que quand il partait en tête, Massa, on le revoyait plus, hein. Il était vraiment impérial, il était parfait dans sa gestion de la course, dans sa gestion de son rythme, dans la gestion de la stratégie également avec son écurie. C'était nickel, hein. Par contre, on a vu un autre problème qui est lié à cette qualité d'ailleurs, c'est que quand Massa partait dans une autre position que la première place, et qu'il se retrouvait derrière le premier, quoi, dans le peloton, eh bien il avait beaucoup plus de mal, il était beaucoup plus irrégulier, et ça lui arrivait de pas être vraiment bon, et au niveau des dépassements, c'était pas ça, hein. C'était pas ça Massa, hein. Pardonnez-moi ce jeu de mots. Je devrais ajouter un bruitage pour ces blagues pourries. Bref, voilà le défaut de Massa, c'était ça. Quand il se retrouvait derrière, il était beaucoup plus irrégulier et il avait du mal à dépasser, à faire les manœuvres qu'il fallait, tout simplement. On va dire, c'est des défauts qui lui ont porté préjudice dans ses luttes pour le titre. Hein, ça, il faut bien le dire. Mais c'était quand même réputé être un des meilleurs pilotes du plateau, un très bon pilote. Et à partir de là, à partir de ces deux saisons, eh bien Massa, il était aisément, on l'annonçait aisément comme un des grands noms qui allaient lutter pour le titre dans les années à venir. Sauf que malheureusement, patatras, Hongrie 2009, gros accident pour Felipe Massa, dont on se serait bien tous passé. On a eu très peur pour lui. Heureusement, il a pu déjà se faire opérer, régler son problème et ensuite continuer sa carrière. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'auraient pas suivi en qualification lors du week-end du Grand Prix de Hongrie en 2009? Il suivait la brune de Rubens Barrichello après le virage 3 là, du Grand Prix de Hongrie, donc dans la ligne droite. Dans la ligne droite après le virage 3, donc à grande vitesse, et il s'est pris un ressort de la monoplace de Barrichello qui s'est détaché et qui est venu taper dans le casque de Massa. Suite à ça, il a été quand même gravement blessé, hein, Massa, au-dessus de l'œil, je crois, à l'œil, enfin, une grosse blessure. Heureusement, il a pu être opéré. Malheureusement, il a dû abandonner son baquet pour le reste de la saison. Mais voilà, comme je l'ai dit, heureusement, il a pu le reprendre pour les années à venir. Mais bon. Il y a une conséquence terrible à cela, terrible vraiment au niveau de ses performances, au niveau de ses qualités de pilote, qui n'ont plus été les mêmes depuis lors, il faut le dire. Depuis lors, Felipe Massa n'a jamais retrouvé son niveau d'antan. Jamais, même avec Williams, même s'il peut dire que avec Williams c'est mieux, il retrouve son niveau, non. Ce n'est pas vraiment pas le cas. Il n'a jamais retrouvé son niveau. Massa refuse de faire le lien avec l'accident entre la baisse de ses performances et cet accident. C'est totalement compréhensible, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire publiquement. Ce serait très dangereux pour lui parce que ça voudrait dire, eh ben, que son accident, finalement, on pourrait dire qu'il n'était pas complètement apte à reprendre le volant alors qu'il l'est apte. C'est juste qu'au niveau de la qualité de son pilotage, ça a baissé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est psychologique, si c'est physique ce qui s'est passé, si la pause en 2009 lui a vraiment fait perdre ses moyens. Je n'en sais rien, mais en tout cas, il n'a plus été le même depuis lors, et en plus, ben, il y a autre chose. Il y a autre chose qui l'a vraiment pas aidé durant sa carrière chez Ferrari à partir de 2010, c'est son coéquipier Fernando Alonso. Alors certes, les deux, ils s'entendaient bien, hein, franchement. Au niveau de l'entente pure entre les deux, c'était cool. Mais c'est au niveau du travail en lui-même, c'est-à-dire... Ah, c'est dur parce que c'est paradoxal. Les deux, on peut pas dire qu'ils peuvent pas se piffer, hein. Quand ils étaient chez Ferrari, hein, non, pas du tout ça. Mais il y a un jeu politique avec Alonso qui s'installe et qui fait que le coéquipier d'Alonso se retrouve isolé. Ça arrive pour la majorité de ses coéquipiers, sauf ceux qui sont très forts, qui sont exceptionnels. On peut citer surtout Lewis Hamilton dans ce cas-là. Mais il a une omniprésence dans l'écurie Alonso qui fait que toute l'équipe va être derrière lui. Alors c'est bien, Alonso, il arrive à rassembler toute une écurie. Malheureusement, il s'en fout de son coéquipier, c'est-à-dire qu'il rassemble toute l'écurie autour de lui. Ce qui compte, c'est ses résultats. D'un côté, il a raison, mais le problème, c'est que le coéquipier se sent isolé dans l'écurie. Tous les réglages vont être orientés en faveur d'Alonso. Du coup, il va falloir s'adapter pour ça. Et vraiment, Alonso arrive à tout rassembler autour de lui et le charge bien quelque part parce qu'il a une manière de faire les choses et de déclarer des trucs. C'est une manière politique, mais c'est pas contre Massa qu'il fait ça, Alonso. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête. C'est pour lui, mais pas contre Massa parce que les deux, On va dire factuellement, ils s'entendaient bien, quoi. Il n'y avait pas d'énormes soucis de relationnel, hein. C'est vraiment le caractère même d'Alonso et ce qu'il entraîne autour de lui, la ferveur de l'équipe qu'il entraîne autour de lui, qui fait que ce fameux jeu politique, qui fait que ben Massa s'est retrouvé isolé. D'ailleurs, ça a été très dur pour lui psychologiquement, hein. Ça a été avéré, hein. Ça a été son ingénieur piste, je crois, qu'il avait déclaré, qu'il avait nous avait inf qui avait informé tout le monde de ça suite au départ de Massa pour Williams. Et d'ailleurs, on se souvient tous, ben, l'exemple le plus parlant, c'est le Grand Prix d'Allemagne 2010 avec le fameux Fernando is faster than you. Fernando est plus rapide que toi, laisse-le passer, en gros. Au Grand Prix d'Allemagne 2010, cette fameuse controverse qui a fait le buzz, on va dire, sur Internet. Mais ça, c'était que le début, c'est l'exemple le plus parlant. On se souvient de la conférence de presse avec un Massa décomposé qui répond aux questions en, comment dire, sans avoir envie d'y répondre parce qu'il sentait qu'il pouvait gagner la course. Mais voilà, mais ça, ce sera que le début, hein. Vraiment, l'image qu'on a là, c'était vraiment que le début et la suite, ce sera du même acabit, sauf que ce sera pas aussi voyant que Fernando is faster than you, mais c'est tout aussi, voire bien plus grave pour Massa. Donc voilà, deux trucs, la blessure et ensuite l'adversité avec Alonso qui l'a enfoncé. Et voilà, et ça se traduit par aucune victoire acquise entre 2010 et 2013 par Massa. Donc en 4 saisons, aucune victoire pour un pilote Ferrari dans une monoplace qui est capable d'obtenir des victoires de temps à autre. Et ben, ça la fout mal quand même pour Massa. On voyait un pilote quand même très diminué, assez moyen, hein, finalement, hein, moyen, parce que en plus on voyait Alonso l'écraser littéralement, hein, ça il faut le dire. Ça il faut le dire. Ensuite, pour lui, ce qui était le mieux, c'est de trouver de l'air frais, et il l'a trouvé du côté de Williams à partir de 2014, et il est toujours chez Williams en 2016 d'ailleurs. C'est de l'air frais, il l'a lui-même avoué d'ailleurs que ça lui faisait du bien d'aller chez Williams. Dans une écurie où il se sent respecté et où il existe, hein, il peut exister dans l'écurie. Il a moins de pression, il a moins de pression. Alors certes, la vie dans l'écurie de Maranello, donc chez Ferrari, c'est formidable. Et ça, il aimera toujours dans son cœur. Ferrari aura toujours une place dans son cœur. Il l'avoue aussi. Mais à ça, il a aucune, comment dire, aucun problème avec Ferrari, hein, aucun problème de relationnel. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il a vécu à Ferrari, c'est formidable, hein. Mais voilà, le fait est que quand on est chez Ferrari, il y a des exigences particulières et l'ambiance est assez particulière. Il faut savoir s'y adapter. Et en plus, avec Alonso comme coéquipier, ça rend les choses plus tendues. Ça, c'est vrai et c'est avéré. En 2015, on a bien vu avec Vettel, Arriva Bene, etc., tout le changement d'organigramme. Il y a eu des choses qui sont sorties et on voit bien que l'ambiance n'est pas la même. N'est pas du tout la même chez Ferrari, beaucoup plus détendue, même s'il y a toujours la pression, mais c'est une pression positive et au moins l'écurie a retrouvé de l'allant, dans le sens où maintenant on voit vraiment que c'est pas le pilote qui est plus important de l'écurie, ce qui était un peu le cas avec Alonso, il faut bien le dire, mais que c'est vraiment l'écurie qui est maître, et c'est ça, c'est très bien parce que il y a une hiérarchie à respecter tout de même. Alors avec Williams, au niveau sportif pour Massa, c'est légèrement mieux, et encore, hein, j'ai des doutes. C'est mieux dans le sens où il est plus proche de son coéquipier, sauf que son coéquipier, c'est un jeune pilote en la personne du Finlandais Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui a fini deux fois hein, devant Massa, deux fois de suite en 2014 et 2015. Alors certes, en 2015, Massa était plus proche de son coéquipier, mais il est toujours derrière. Et voilà, il perce pas, hein, pas comme avant. Hein. Pas comme avant, malheureusement. 5 podiums en 2 ans pour Massa tout de même, dont 3 sur des circuits à la saveur particulière pour lui d'ailleurs, des circuits assez émotionnel, hein. Deux en Italie où les tifosi l'accueillent vraiment l'accueillent vraiment pas triomphalement non plus vu qu'il est plus pilote Ferrari, mais ils l'acclament vraiment où Massa fait le signe du cœur envers les tifosi parce qu'il aime toujours ben voilà Ferrari. Quand tu passes chez Ferrari, évidemment tu gardes toujours cette écurie dans ton cœur, c'est obligé. Et il a remporté il a fait un podium au Brésil également en 2014. Donc c'est pas mal, des podiums émotionnels, à croire que sur les circuits où il est vraiment lié, on va dire, à la patrie, eh bien, il arrive à mieux piloter, on va dire, à mieux saisir les opportunités. Je ne sais pas, c'est une théorie, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, je l'avance. Mais voilà, 2014-2015, c'est plutôt des bonnes saisons pour Massa. C'est pas mauvais, mais c'est pas voilà, d'un pilote expérimenté comme lui. Si jamais il avait vraiment retrouvé son niveau des années 2006 à 2008, eh bien il serait devant Bottas à l'aise, hein. À l'aise ou juste devant, mais il serait devant en tout cas. Il n'aurait pas ses performances un peu en dentille, même si voilà, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Et voilà, donc par conséquent, ces années phares à Massa, ça restera vraiment 2006, 2007 et 2008. Et c'est tout. Et c'est tout, c'est ses trois meilleures saisons à F1. Malheureusement, avec aucun titre hein, pour lui. Il aurait aimé le contraire, je pense. Mais ensuite, on n'a plus jamais retrouvé le pilote de ces années-là. Et on ne le retrouvera pas. Mais oui, je vous le dis, il ne faut pas se mentir, on ne le retrouvera pas. Maintenant, c'est mort pour Massa pour retrouver ce niveau. Ça reste un bon pilote, attention, je dis pas qu'il est mauvais, hein. Felipe Massa reste vraiment un bon pilote, solide, avec Williams, et meilleur que la majorité du plateau, hein, vraiment. Hein. Citez-moi plus de la moitié du plateau, ou même 25. Ouais, citez-moi même un quart du plateau meilleur que lui, c'est difficile, hein. C'est difficile quand même. Ça reste un bon pilote de F1, et Williams a raison de continuer avec lui et de s'attacher ses services, hein, ça c'est clair. Il a beaucoup d'expérience en plus, il est en F1 depuis 2002. Donc c'est très utile pour une écurie comme Williams, et en plus ça convient à Massa qui cherchait une ambiance un peu plus, on va dire, familiale, un peu plus cool, et avec moins de pression, et voilà, il l'a trouvé, et tant mieux pour lui. Au niveau de son palmarès, Felipe Massa a couru pour l'instant, parce que c'est encore des chiffres en cours. Il a effectué 13 saisons en F1, 229 Grands Prix, 11 victoires, 16 pole positions, 41 podiums. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Il fait partie quand même des pilotes les plus capés et qui ont un des plus beaux palmarès en F1 à l'heure actuelle. 936 tours en tête. Ce qui représente 4536 km en tête. Et là, j'ai sorti mon Google Maps. Hein, il faut que je cite tous les sites. Mappy, Via Michelin, pardon. Non, je l'ai fait sur Google Maps, hein, je me mens pas. Et je vous mens pas. Et donc, 4536 km, eh bien, si vous êtes Tourangeau, eh bien, vous pourrez faire un road trip Tour-Yerevan. Donc, Yerevan, c'est en Arménie, hein, si vous ne le saviez pas. Si vous faites cette distance en voiture, eh bien, vous aurez effectué la distance qu'a faite Felipe Massa en tête d'un Grand Prix de F1. Et ça, c'est beau. Ça ne sert à rien, mais c'est beau. Alors, il faut parler d'un dernier truc avant de vous quitter, c'est qu'on entendra peut-être de nouveau le nom de Massa en sport automobile d'ici 10, 15 ans. Pourquoi pas, peut-être avec Felipe d'ailleurs, suite à sa carrière en F1, mais avec son fils, je pense surtout à son fils. Felipinho, parce que ce petit gars qui est très jeune, il doit avoir, je sais pas, 5 ans tout au plus, hein, à l'œil, hein. Je me suis pas renseigné plus que ça, mais il doit avoir 5-6 ans, à peine, vraiment à peine. Eh bien, il semble vraiment développer très tôt une attirance pour la course, pour le karting. Massa poste très régulièrement maintenant, quand même, des petites vidéos sur Instagram ou autre de son fils. Et de lui faisant la course. Alors, ils font même la course dans le salon avec des mini-motos où ils se chronomètrent. Donc, un truc de fou. Faut vraiment être dans le sport automobile pour faire ça. Il s'amuse beaucoup, Felipinho d'ailleurs. Et ensuite, sur une piste de karting locale où les deux s'amusent. Donc, attention. On va dire attention. Peut-être qu'on va voir Felipinho Massa à l'avenir en sport auto. À voir. Hein, peut-être que c'est juste pour s'amuser qu'il va pas vouloir en faire une activité compétitive. Hein, le petit jeune. Mais en tout cas, il est mignon. Quand on le voit sur les circuits s'amuser au foot avec son père ou autre, il est trop chou ce petit Felipinho. Hein, il est trop chou. Donc voilà. C'était peut-être plus pour l'expectative. Mais bon, on va pas en faire trop. Faut jamais en faire trop autour des jeunes, hein, on verra quand il aura fait ses années de karting, s'il les fait, et puis quand il sera en monoplace, ce qu'il devient. Mais en tout cas, c'est marrant de le voir si jeune et déjà voilà faire des petites courses avec son père qui le met déjà dans le bain avec le casque et tout. C'est marrant, c'est mignon. Voilà, c'est plus mignon qu'autre chose. Il faut plus y prendre comme ceci, hein, pas trop se prendre la tête avec un très jeune pilote. Hein, faut pas le mettre non plus, faut pas le médiatiser. Pas du tout le médiatiser comme certains footballeurs peuvent être médiatisés dès l'âge de 10 ans, 12 ans, et après on n'en entend plus parler parce qu'ils il se retrouve lâché ou il se retrouve à prendre la grosse tête et à ne plus savoir quoi faire. Faut faire attention avec ça. Ceci étant dit, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous au prochain, je ne sais pas, ben, quand je pourrai le faire. J'ai pas mal de sujets de chronique hein, sous la main, donc ne vous en faites pas. Analyse F1 ne s'arrête pas en cette période de trêve hivernale, bien au contraire, hein, je reste au fait de l'actualité F1 si vous voulez en discuter, si vous avez des idées de podcast, de chronique, enfin des idées de chronique, des idées d'actualité dont vous voudrez que je parle et que j'ai peut-être éludé la question, ou j'ai peut-être, je suis peut-être passé à côté, ou que pour l'instant j'ai pas jugé utile d'en parler, n'hésitez pas à me le dire, hein, ça me donnera, ça m'inspirera peut-être et même sûrement à faire un podcast. Donc n'hésitez pas, je vous remercie. Et d'ici le prochain podcast, n'oubliez pas, comme d'habitude, plus qu'hier et moins que demain, vivons notre passion. À bientôt.